Je parle tout bas pour ne pas me réveiller.
Accroche-toi bien.
Ça suffit.
Dans tes rêves.
C'est impossible.
Vous êtes en retard pour le thé. Seulement si tu crois que c'est impossible. Dans tes rêves.
Dans tes rêves, tu filmes ta mère dans sa cuisine avec vue sur la cité HLM. Elle prépare des beignets du Maghreb qui font moins grossir que McDo puisque c'est ta mère qui te le dit. Elle écoute une musique habile sur son Algérie perdue. Son regard s'embrume, alors tu la filmes d'un peu plus loin parce que c'est ta mère. Dans sa chambre, il y a le juste prix à la télé. Elle aime bien quand les gens gagnent parce que la vie est dure pour tous. Elle s'endort avec un nounours, ce n'est pas un doudou, c'est le veilleur de la maison et c'est ta mère qui te le dit. Dans tes rêves, tu photographies des cargos fantômes, des carcasses rouillées et abandonnées dans le cimetière de la mer, des vestiges du passé bouffés par les algues. Sauf que la nature ne peut pas forcément digérer tout ce que l'homme a oublié. Dans tes rêves, il y a le pays de ton enfance et celui d'utopie. Il n'y a pas de morale à la fin. Tout est possible, tu deviens un super-héros de la vraie vie. Alors, si on écoutait un peu plus ce fameux rêveur qui sommeille en nous.
Dans tes rêves.
France Inter.
Laurence Garcia.
Et pour cette nouvelle rêve partie, une rencontre d'imaginaire dont je me suis inspirée, ma première est photographe, chasseuse d'épaves, des cargos délaissés en Mauritanie, des plateformes pétrolières fantômes du Pérou, des forts militaires abandonnés dans la mer du Nord. C'est une photographe de l'invisible et du chaos du temps, on en reparlera. In fine, c'est le nom de son expo à la Galerie de l'Europe jusqu'au 9 juin. Bonjour, bonsoir,
bonsoir
Francesca
bonsoir.
Picaras. Chasseuse d'épaves, il y a un côté un peu aventurière, chasseuse de trésors.
Il y a surtout aller à la recherche de la réalité de l'homme, justement, et de le transformer en rêve, c'est-à-dire en beau, c'est-à-dire dans quelque chose où ceux qui regardent peuvent se projeter et inventer leur propre histoire. Ça, c'est très 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 important. Maintenant, effectivement, je vais dans le monde entier oui. pour aller voir ce que l'homme a abandonné et comment la nature le redigère ou pas. Et comment elle le retransforme en quelque chose de créatif, en sculpture, en œuvre. Voilà. Tout et donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc je suis pas dans le jugement, je suis juste dans le regard de ce paradoxe qu'est l'être humain, qui est capable d'inventer des choses absolument incroyables pour passer immédiatement à autre chose et considérer que, voilà, derrière, après lui, rien.
Après la fin, il y a peut-être une autre fin, et on verra ça.
En tous les cas,
après la
fin, ça se retransforme, ça redevient autre chose. Et l'homme continue, et jusqu'où ça pourra aller.
Telle est la question.
Voilà.
On en reparlera
on
ce
verra.
Soir. Mon second est écrivain, documentariste, journaliste indépendant. Nos rêves de pauvres ou encore un tocard sur le toit du monde sont autant d'histoires intimes et universelles, comme son dernier film, Avoir en salle des figues en avril. Une très belle déclaration à sa maman et finalement à toutes les mamans héroïnes. Bonjour, bonsoir Nadir Dandoun.
Coucou.
Je me suis librement inspirée de votre beau documentaire, à la fois émouvant et drôle. Oui, donc quand maman dit non, les beignets à l'huile, ça fait pas grossir, faut la croire. Hein.
Faut la croire.
Hein ?
Elle a un caractère bien trempé. Et quand elle dit quelque chose...
Moi, je la crois.
On dirait, voilà.
Elle a de l'humour. Hein.
C'est vrai.
C'est elle la veilleuse de votre vie, finalement. Hein. C'est pas le doudou, c'est pas le fameux nounours.
Ben là, ce qui a été fou avec ma mère, c'est que même quand j'étais perçu comme un être irrécupérable, ça a été la seule qui a toujours pris parti pour moi. Ouais. Et quand je lui ai demandé pour quelle raison elle avait toujours pris parti pour moi, elle m'a dit, parce que je savais que t'allais t'arranger, parce que c'est moi qui t'ai fait.
Ça, c'est bien. Je crois savoir d'ailleurs que quand elle a découvert votre film en salle, c'est elle l'héroïne, elle était pas très contente parce qu'elle trouvait que sa cuisine n'était pas bien rangée. Elle se dit, tiens, qu'est-ce que les gens vont penser de ma cuisine?
Voilà, c'est ça. Ouais, c'était ça.
C'est pas vrai.
Mais je pense que c'était sa manière de dire aussi que ça l'avait touchée. Et comme elle est pudique, elle ne pouvait pas dire qu'elle avait trouvé ce film beau. Et au lieu de dire ça, bah, elle a essayé de trouver
petite pas de côté.
Pirouette.
Oui. Voilà. L'angle, la photographe de côté. En tout cas, on est vraiment ravis de provoquer cette rencontre entre vous deux. Parce que c'est votre...
Je commence à être de plus en plus contente.
Ah bon, pourquoi?
Oui, parce que je trouve charmant, je trouve qu'il y a une chaleur, que la maman est présente.
Sentiment partagé.
Voilà, la maman est présente.
Il y a la mère et la mère.
Voilà, il y a les deux mères.
Les deux mères. Parce que même si vous bossez tous les deux sur
des univers très différents, il y a un imaginaire quand même assez commun. Quelque part, vous êtes tous les deux des chercheurs de traces. Vous travaillez aussi la mémoire, l'invisible, la mémoire du passé à travers les exils, la mémoire de ce qui n'existe plus mais qui existe encore et qui se transforme. Chercheurs de traces, ça vous va, ça, Francesca Piqueras, Nadir Dandoun?
C'est vrai que mettre à l'écran une femme comme ma mère, je ne sais pas si ça s'est déjà fait ou ça s'est très peu fait. On a souvent mis à l'image, quand on parle des histoires d'immigration, d'hommes. Oui. Et c'est souvent des histoires qui ont été vues et, par le prisme du travail. On avait presque l'impression qu'il n'y avait rien derrière. Pour moi, c'était comme les déshumaniser, quoi, presque. Donc, de mettre à l'écran ma mère, c'était surtout de les rendre visibles et de bien rappeler que peut-être que les vraies héroïnes, c'est elles. C'est souvent des femmes qui ont porté à bout de bras des familles entières et qui ont fait en sorte que quand tu vis dans une barre HLM avec 9 mômes, tu mérites la Légion d'honneur.
Quoi. Oui, c'est ça, vous dites, elle a peut-être pas bac plus 40, mais elle mérite la Légion d'honneur.
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas parce que tu sors d'une grande école de commerce que t'as les dents qui rayent le parquet, que t'es plus intelligente que ceux qui n'ont pas fait d'études.
C'est ça, effectivement.
Moi, je travaille une autre trace, effectivement.
Oui.
Je travaille vraiment une autre trace qui est ce que l'homme laisse vraiment
dans la mer.
Pas seulement dans la mer, mais ce qu'il laisse, ce qu'il en fait, ce qu'il en fait pas. Évidemment, quand on fait un travail comme ça, quand on fait un travail qui est lié à la création, ça part forcément de soi. Donc, moi, c'est quelque chose, je pense qu'on est tous, on a tous été à un moment donné confrontés à l'abandon d'enfants, d'adultes. Et puis, je suis désolée d'en parler aussi, mais on est confronté à ce qui va nous arriver, qui est la fin. Et donc, moi, je travaille cette fin, cette transformation. Et il est vrai que dans mon travail, il n'y a pas d'être humain. Il n'y a absolument pas d'être humain, et c'est une chose que j'ai fait exprès, parce que je trouve que ces bateaux, ces plateformes portent une histoire humaine.
Et sont mystérieuses dans vos clichés.
Elles sont tellement mystérieuses, et justement, encore une fois, c'est celui qui regarde, qui raconte son histoire, qui se raconte l'histoire.
Mais d'ailleurs, la photo de famille, pour le coup, elle est assez présente aussi dans votre film, surtout quand, à un moment donné, la mémoire vacille, et pourtant, c'est un instant T, c'est souvent un trompe-l'œil, mais ça marque l'imaginaire.
Comme je travaille pas à BFM, par exemple.
Ah bon?
pour moi, il était inimaginable que je mette mon père à l'écran.
Sur votre père, il faut expliquer, il est placé en EHPAD, maladie d'Alzheimer.
Donc au lieu de le mettre à l'écran de cette manière, je me suis servi de vieilles photos en plus, qui en fait sont des belles photos. Après, je vais parler comme un vieux, mais avant c'était beau. Même de la manière dont nos papas posaient. D'une manière très fière, très droite. Je me souviens qu'à chaque photo, mon père mettait un costard cravate. De prendre une photo, il y avait un truc solennel. C'était pas juste...
Comme vous êtes habillé là, par exemple.
Ouais, là, je suis très très bien habillé, ça ne peut pas me voir. mais c'est vrai, vraiment, il y avait le côté très solennel. Et l'importance de la photo, là, maintenant, on filme tout avec du numérique. Donc on n'a plus de traces, et c'est pour ça que je suis super content de voir que Francesca, elle sort des livres. Parce que c'est bien qu'on
ait des photos. On n'est pas dans le selfie, ça c'est sûr.
Voilà. C'est bien qu'on ait des vraies photos, parce que maintenant on ne les tire plus, les photos.
La photo de famille, c'est la photo d'épave sans homme, avec la trace de l'homme, c'est aussi l'instant T.
Oui, c'est l'instant T, mais c'est dans le temps, c'est quelque chose qui travaille le temps, parce que pour qu'une épave arrive à cet état-là, de mémoire, et de traces, et de sculpture, et de rouille, c'est le temps, et le temps est très très important, et le temps raconte quelque chose de l'humain.
Imaginaire cosmopolite l'un et l'autre. Nadir Dandoun, vous dites, moi je suis le premier beurre australien, australo-beurre, hein, parce que vous avez trois passeports, australien, français, algérien.
Ah, ouais, c'est ça, ouais.
Vous rêvez en quelle langue, vous, par exemple? En kabyle, en français?
Si on a inventé le droit du sol, c'était qu'on avait compris qu'on pouvait être français et basané en même temps, mais d'abord français, donc je rêve en français. Alors là, c'est vrai que ça fait 3 mois que je dors presque plus.
Ah bah oui, mais ça c'est pas bien. Hein.
Parce que je dors, je me réveille des filles en avril, donc à ce moment. Mais non, c'est vrai que je rêve dans
mais
ma
vous
langue.
Rêvez du film quand même.
Ah
souvent,
donc je rêve de toutes les scènes.
Ah de toutes les scènes.
On se refait les scènes à l'envers.
Par cœur.
Vous êtes italo-péruvienne, oui. Francesca Piqueras. Je crois que vous parlez pas mal de langues.
Moi je parle 4 langues. J'ai un père espagnol-péruvien. J'ai une mère italienne, c'est 2 continents différents.
Mais vous rêvez en quelle langue?
Et je rêve, surtout je parle, c'est-à-dire que je vais d'un pays à l'autre et immédiatement je peux passer d'une langue à l'autre. Et les rêves ne sont pas très sonores au niveau de la parole, mais de l'image. Et il y a plein d'images qui se mélangent, qui voilà, tous ces continents, tout ce dont on est fait, tout ce dont on se construit. J'habitais dans une maison que Eiffel avait dessinée,
la fameuse maison de fer,
mais au milieu de la banlieue. Donc mes amis, ils vivaient dans des bars, ce qu'on appelle des bars. Là chez moi, il y avait des gens comme Duchamp qui arrivaient là, et donc c'était deux mondes complètement paradoxaux, complètement fous. Et moi, la seule chose, c'est que je rêvais, je regardais en l'air, je regardais le ciel, et je me dis, quand est-ce que je pourrais me débarrasser de ces adultes, devenir libre, faire ma vie, voyager, et voilà. Et c'était tout le temps, c'était en permanence.
Et on parlera tout à l'heure de ce pays, de ces pays de l'enfance, avec des racines plurielles. Voilà pour la rêve partie jusqu'à minuit. Vous postez vos songes aussi sur notre page Facebook Dans tes rêves, la rêve partie anti-blues de dimanche soir, m'étonnée par le gang des rêveuses. Céline Hila à la réalisation, Nadia Chougui à la préparation, Muriel Pérez pour la programmation. Et ce soir, à la technique, Florent Layani. Allez, on se laisse bercer par des trombones black.
Black trombone, monotone, le trombone, c'est joli. Tourbillonne, gramophone et bâillonne mon ennui. Black trombone, monotone, autochtone de la nuit. Dieu pardonne la mignonne qui fredonne dans mon lit. Black trombone, monotone, elle se donne à demi. Frissonne, déraisonne, m'empoisonne, m'envahit. Black trombone, monotone, c'est l'automne de ma vie. Plus personne ne m'étonne, j'abandonne, c'est fini.
La sublime voix de Serge Gainsbourg du temps des débuts, Black Trombone sur France Inter.
France Inter.
L'entraînement n'est rien. Seul compte, la volonté.
Si tu parviens à dépasser ta condition d'homme, si tu te consacres à un idéal, tu deviendras tout autre.
Dans tes rêves, Laurence Garcia.
Es-tu prêt à te lancer ?
Dans leur rêve, avec Francesca Piqueras, la photographe chasseuse d'épaves, de cargo, entre autres. Et Nadir Dandoun, écrivain documentariste qui filme les héros invisibles et visibles de la vraie vie. Donc comme à chaque fois, on explore l'imaginaire de l'enfance qui explique un petit peu qui l'on devient. Et je vais commencer par vous, Francesca. Mm-hmm. Vous en avez donné quelques brides comme ça, quelques traces, puisqu'on parle de chasseuse de traces. Vous disiez famille d'artistes. C'est vrai qu'à la maison, il y avait les Man Ray, les Salvador Dali
passaient. Oui, Dali, Duchamp, beaucoup, qui venait jouer aux échecs avec mon père. Il y avait tout un groupe comme ça, que moi j'étais minuscule, mais bon, voilà, je voyais toute cette famille bouger comme ça, dans une situation qui pourrait pas sembler très, qui était très riche intellectuellement, spirituellement, mais pas du tout.
Surtout qu'ils sont plutôt bizarres, hein, ces artistes-là.
Ils sont très bizarres, et en plus, je veux dire, j'ai vécu dans une famille qui avait, on savait pas qu'est-ce qui allait se passer demain. Tout était en fonction des ventes des tableaux ou des sculptures.
Les artistes bohèmes.
Voilà, c'était ça.
sur Bobo.
Voilà, donc, non, Bobo à l'époque, ça n'existait pas du tout. C'était vraiment des gens qui travaillaient, qui étaient vraiment dans leur passion, et c'est ce qu'ils m'ont donné. Ils m'ont donné cette passion, ils m'ont donné la patience, parce qu'il faut avoir beaucoup, beaucoup de patience, beaucoup de travail. Et puis, on se fait, dans cette situation d'enfance, on se fait des compagnons. Et moi, la compagne que j'ai eue, c'était la peur. Parce que quand on voit tous ces parents qui font ces choses, on se dit, trouver sa place est très très compliqué. Mmh. Cette place-là.
Mais la peur de quoi? La peur de rater?
La peur de faire. La peur aussi de prendre sa place. En tant que créatrice, de faire des choses. Qu'on a eu un petit peu des monstres. Donc ça prend beaucoup de temps. Mais à un moment donné, on prend la main à la peur, on y va avec. Et on avance. Voilà. Sans filet. Et puis si on tombe, on tombe, on se relève et on continue.
Alors, ce qui est marrant, c'est que je pense. On vous a offert un appareil photo très tôt, hein. Vous aviez 14 ans, un truc comme
13
ça.
Ans, oui.
Et vos premières, vraiment, alors la série photo professionnelle, c'était ce que j'ai lu, des traces de d'urine,
de pipi,
dans les villes.
Dans les villes, alors, qui ressemblaient à quelque chose. Je sais pas, les gens font pipi dans les rues, les chiens, tout le monde. Enfin,
plutôt des hommes, hein, d'ailleurs.
Les hommes, les chiens, voilà. Et tout d'un coup, il y avait des formes. Ça pouvait être une femme, ça pouvait être... Et ça continue à faire ses traces. Et ça devient aussi des compagnons. C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance des traces, comme ça, urbaines, toujours sans l'homme, mais qui représentent souvent l'homme. Et voilà, et donc, j'ai joué avec ça.
Les compagnons imaginaires, hein, l'absence de l'homme, ça revient souvent.
Mais qui est toujours là, mais pas directement.
Ouais. Et cette maison de fer, donc, vous en parlez tout à l'heure, qui était dessinée par Gustave...
Oui. Et qui a été fabriquée par un élève de Gustave... Un élève belge,
Gustave Eiffel.
Ben, on vivait dedans. C'était très très étrange parce qu'on était au milieu de nulle part, au milieu des poires, au milieu des cerises, au milieu, voilà. Il y avait tous mes amis qui étaient autour et qui avaient tout à fait une autre réalité desquelles je me sentais très proche et aussi loin. Et de la même façon, je me sentais très proche de ma famille et très loin de ma famille. Donc à un moment donné, on doit se construire d'une façon ou d'une autre. Et puis j'avais des parents assez étranges, un père qui était artiste et qui a eu la bonne idée d'abandonner tout, nous et la maison.
D'où la notion d'abandon.
Mais le problème, c'est que des skinheads sont arrivés là et ont brûlé tout. Donc cette maison, tout à coup, était éventrée, brûlée, les sculptures détruites, ce qui est quand même est fort, de brûler ou détruire des œuvres, en l'occurrence.
Oui, ça se fait d'ailleurs
malheureusement. Donc tout ça, moi, ça m'a construite. Ça m'a construite dans le travail que
dans
j'ai fait
aujourd'hui.
Dans la déconstruction. Et ça m'a construite dans la... Et c'est pour ça que, très à l'aisement, je vais voir, on ne dit pas à l'aisement, mais enfin,
oui,
mais vous avez compris.
On a droit à tout dire ce soir.
Voilà. Vous voyez, moi non plus.
C'est joli, très à l'aisement.
Très à l'aisement, je vais voir comment la nature transforme ce que l'homme a abandonné.
Alors, quand la photographe, qui a beaucoup d'imaginaire, écoute ça...
Magnifique.
La mer qui claque, la sirène d'un cargo. Quelles images vous viennent? Parce que vous
c'est plus grave que ça. C'est la mer qui engloutit quelque chose. Voilà ce que m'a évoqué. Mais d'une très jolie façon. Mais c'est quelque chose qui coule, quelque chose qui tombe dans l'eau, qui engloutit.
D'où cette architecture de l'invisible et de l'absence, les noms que vous avez donnés à vos séries de photos.
Oui, absolument. L'architecture de l'absence, l'architecture du silence, l'architecture intérieure, parce qu'aussi il y a tout un dialogue entre l'intérieur et ce qu'on voit. Voilà.
Mais c'est pas des cimetières pour vous.
Non, c'est pas du tout
des
cimetières. Au contraire, c'est totalement vivant. C'est dans la transformation. C'est vraiment la transformation. C'est la transformation de la fin en quelque chose de créatif, en œuvre.
Ouais.
Œuvre que fait l'homme avec sa destruction et la nature avec son besoin de digérer. Et sa nécessité de digérer, parce que sinon, voilà.
Ouais. Autre décor d'enfance, là on est du côté de Saint-Denis, vous êtes né en 72, Nadir Dandoune, alors Benjamin d'une grande fratrie, 9 enfants, vous êtes le petit dernier, vous.
Oui,
hein,
c'est ça, le dernier.
Alors vous l'avez raconté aussi bien dans vos livres, un papa ouvrier qui débarque en France dans les années 50, la maman ce sera un peu plus tard, votre père qui a vécu à un moment donné dans les bidonvilles. C'est vrai que le jour où ils sont installés dans ce fameux F5 de la cité Tour Maurice Thorez,
c'était dans l'hôtel Hilton pour eux. Presque.
C'est ça, ce que vous écrivez. Là, on a de l'espace.
Oui, il y a donc c'était un F5, donc il y a 4 chambres, il y a des placards pour ranger ses fringues, t'as une baignoire, t'as l'eau courante, hein, parce qu'avant il n'y a pas l'eau courante. Donc pour eux, c'est vraiment le luxe.
Ouais. Francesca Picaras parlait, elle, de la peur qui l'a accompagnée. Vous, très longtemps, pendant longtemps, c'est la colère qui vous a accompagnée.
Bah, même encore. Là,
même encore là. Et non pas la colère d'être...
La rage aussi. Hein.
La rage. Non.
La colère, la rage, la revanche sociale aussi, pour être honnête. Hein. Moi, c'est mon moteur. Hein. C'est un truc dont je ne me cache pas. Hein.
Ah bah non, vous écrivez même avec.
Je hein. pas, ouais, moi j'écris pas, avec les tripes.
Mais pas d'être fils d'immigré d'Algérien, mais fils de pauvre.
C'est fils de prolo, fils de pauvre, voilà. Parce ouais. que même si on parle plus de classe sociale dans notre pays, même les hommes politiques de gauche n'en parlent plus, pour moi, elle est centrale. Hein. Et pour moi, c'est pas pareil quand t'es fils de prolo que quand t'es né dans le 8e ou dans le 16e et quand t'as deux nounous pour garder tes mômes, quand t'as les moyens de te payer un prof de maths, quand ça va pas en maths, quoi. Donc, c'est quand même pas la même chose. Ouais. Quoi. Et qu'on nous parle toujours d'égalité républicaine. Ça serait, je trouve qu'on se fout de la gueule du monde, bien ouais. comme il faut. Mmh. Mais comme on parle plus de la question sociale, tout le monde est obsédé par la question identitaire. Tout le monde, même ceux de gauche. Alors que normalement, c'est plutôt un truc de droite, quoi. Ouais. Donc même les mecs de gauche sont obsédés par ça. On a fini par tomber dans le piège. Et c'est ce que je dis depuis souvent. Moi, je suis plus proche d'un blanc qui est né dans mon quartier que le fils d'ambassadeur du Maroc. Enfin, même si je peux avoir quelque chose de fini avec lui, en gros, je m'en tamponne. Ouais. De sa vie, de ce qu'il fait, quoi.
Et alors, cet ado qui s'est construit un peu dans la colère, enfin plus qu'un peu dans la rage, avec toujours l'esprit, ça c'est pas pour moi. Le tennis, c'est pas pour moi, c'est Exactement. Pour eux. Les filles blondes, c'est pas pour moi. Le théâtre, le musée, la culture, c'est pas pour moi. Mais ce qui est étonnant, enfin ce qui est pas rare d'ailleurs, c'est que finalement, vous avez beaucoup plus de colère que vos parents. Vos parents ne vous ont jamais transmis la colère.
C'est
en
vrai,
fait.
C'est vrai. Ben, alors, je suis pas psy, mais
non,
il...
Moi non plus d'ailleurs.
Mais il paraît... que ça saute d'une génération parfois, et que c'est de l'ordre... Il y a un syndrome post-traumatique. En fait, mes parents m'ont jamais parlé en mal de ce pays. C'est quand j'ai commencé à prendre de l'âge, quand j'ai commencé à lire des livres, à me rendre compte que ça avait été la guerre d'Algérie, la colonisation française, qui est tout sauf un truc sympa, hein, si t'as des élus de droite, même des élus de gauche, qui des fois te disent « oui, mais on vous a construit des routes et des hôpitaux ». En tant que Français, le truc le plus important, c'est la liberté, quand même. Et le peuple algérien n'était pas libre.
Ouais. Mais c'est par les libres, hein, finalement.
C'est
hein,
par les libres. Ouais. Et donc c'est vrai pas que moi, quand moi j'étais petit, on m'a mis dans la tête, je vais pas tomber dans du misérabilisme primaire ou dans de la victimisation, mais on m'a dit, en gros, que j'avais pas le droit d'écrire, j'avais pas le droit de jouer au tennis, j'avais pas le droit de faire des films. Moi, il y a 10 ans, jamais j'aurais pensé que je serais
ou même passé
ici, une... avec Francesca, ouais. avec Laurence, avec toute votre équipe. À parler de ma vie, quoi. Moi, c'est pour ça que c'est des trucs qui me font... Ben, moi, ça me fait bizarre. Et je pense que je perdrai jamais mon complexe de pauvre. Moi, je pense que je suis marqué à vie par
c'est
ça.
C'est vrai?
Ah ouais, je pense que je suis marqué. J'ai gravi les vrais, j'ai fait des tours du monde à vélo, j'ai fait plein de choses. Mais je reste fondamentalement un pauvre. Un pauvre dans ma manière de vivre, un pauvre dans ma manière de penser, de tout ça, quoi.
Alors que votre mère, elle a dit, on est des paysans, et cette maman...
Et on n'est pas des bourgeois.
Et on n'est pas des bourgeois, en revanche. On va pas au resto comme chez les bourgeois. Et dans ce film-là, elle est dans sa cuisine, souvent, et elle écoute cet air-là.
L'Algérie, mon beau pays, je t'aimerai jusqu'à la mort. Loin de toi, moi je vieillis. Rien n'empêche que je t'adore. Avec tes sites ensoleillés, tes montagnes et tes décors, jamais je ne t'oublierai, quel que soit mon triste sort.
Slimane Azem, hein, c'est son chanteur poète kabyle préféré à votre maman. Et on la voit souvent écouter se repasser en boucle ces titres-là. 60 ans après, avec l'émotion, là, le gamin et l'ado ou l'adulte que vous êtes devenu, ils se sont impuissants par rapport au rêve, à l'exil de cette maman, au rêve perdu, eux, de retour au bled.
C'est vrai que Slimane Azem, ça a été le premier chanteur à parler de l'exil. Ça a été un gars hyper important pour beaucoup, beaucoup de familles. Il les a accompagnés dans leur exil, il leur a donné de la force. Hein. Quand j'étais petit, mon père et ma mère écoutaient Slimane Azem en boucle. Hein. Donc moi, il y a un moment, ça me faisait un peu...
J'écoutais Michael Jackson.
Mais en même temps, et c'est là que ma mère, elle est devenue française, c'est qu'elle adore... Francis Cabrel, elle adore Charles Aznavour, elle adore Michel Delpech et tout ça, quoi. Donc elle écoute aussi ça.
Ouais.
Et votre question, c'était quoi, hein?
J'ai pas de mobile. On se sent impuissant quand on voit sa maman partir dans un pays finalement qui n'est pas le vôtre,
oui,
hein,
mais dans sa tête. Dans sa tête, c'est vrai. Ouais. Sauf que quand elle retourne dans son pays, elle est plus pareille. Parce que quand tu vis dans un pays, tu deviens du pays. Donc elle, elle reste 10 ans en France, elle rentre dans son pays,
ouais.
Elle a changé. Les gens de son pays ont aussi changé, mais pas de la même manière. Elle, c'est une funambule entre ces deux mondes. Ouais. Elle ne sait même plus où elle est, quoi.
Les funambules de monde, un petit peu comme vous, et on parlera de cette conquête de l'Everest que vous avez faite aussi pour réaliser quelque part aussi, puisqu'on dit qu'on saute de génération les rêves des parents aussi. Neighbor, beyond the wall, what's happened to our home? We live amongst the rockets. Rockets I used to own underneath the dome and in a playground. Oh, and please, Lord, save my soul. Forgive me for my role. Change our target. Other. We don't get along, we don't get along. Don't wait for a savior, just be a good neighbor. You can come along before our time is gone. C'est Heure sur France Inter et ce soir nous visitons les rêves et les utopies de la photographe Francesca Piqueras et de l'écrivain documentariste Nadir Dandoun.
Avant de revenir à l'actualité, on s'intéresse d'abord à ce jeune homme de la Courneuve dans le 93. Il a décidé, il y a maintenant près d'un mois, alors qu'il n'a aucune expérience particulière, de s'attaquer à la montagne la plus haute du monde, l'Everest. Il est aujourd'hui déjà à près de 8000 mètres d'altitude et s'apprête à réaliser son rêve. Jérôme Brière nous dresse le portrait hors du commun de ce jeune Français parti de la cité des 4000 pour rejoindre le toit du monde.
Dans tes rêves.
Ouais, c'est pour dire, Samy, c'est la fierté du quartier.
Ouais.
Ça prouve que tu vois, ici, il n'y a pas que des bras cassés et que dès qu'on nous donne un taf, et ben on le fait jusqu'au
c'est
bout.
Ça, voilà, c'est ça, exactement. Mon pote, t'inquiète, mais on fait un truc, c'est chez nous, t'as vu
c'est ça, c'est la Courneuve ici, c'est la Courneuve ici.
Laurence Garcia, sur France Inter.
Et ça le fait toujours rire, hein. Extrait de l'Ascension, le film de Ludovic Bernard, inspiré de votre propre histoire, de votre propre vie. Nadir Dandoun, voilà, premier franco-algérien à atteindre le sommet de l'Everest, c'était il y a plus de 10 ans. Alors là, on est sur le ton de la comédie, comédie sociale, etc. Mais vous, à l'époque, c'était vraiment vécu comme un exploit symbolique, politique, culturel, l'ascension sociale. On parlait de rêve de pauvre tout à l'heure aussi.
Ouais, c'est vrai qu'il faut rappeler à ceux qui connaissent pas l'histoire, c'est que quand je suis arrivé à 8848 mètres, j'ai brandi avec fierté un cœur où est écrit dessus 93, donc le chiffre de mon département, le chiffre de département où je suis fier d'être de ce département, parce que c'est pas un département comme les autres, hein. C'est l'un des départements les plus pauvres, mais surtout c'est un département qui est souvent utilisé par nos hommes politiques pour faire leur beurre sur nos tronches, à nous. Donc moi, c'était hyper symbolique, c'était de leur dire « Moi, je suis très fier d'être dans le département. » Et c'est un truc qu'on fait quasiment jamais, quoi.
Bah, moi, surtout que Franchal Capicaras connaît pas forcément votre histoire, mais il a tout pipoté, quoi, sur son CV. Il a bluffé l'organisation de l'expédition, il n'avait aucune expérience de montagne.
Sauf que, ouais, c'est vrai. Sauf que, c'est ce que je racontais dans un tocard sur le toit du monde, je disais après, quand je suis invité dans des collèges et dans des lycées, j'essaie de pas trop dire ça, parce que...
Oui, parce que c'est pas bien, monsieur. Si vous voulez servir d'exemple pour la jeunesse.
Mais je dis que si je triche pas, si je transgresse pas, j'aurai eu le droit que de crever dans ma cité. C'est en fait aussi ça.
C'est ça que vous leur dites comme message?
Non, je leur dis pas ça, mais c'était ce que j'ai écrit. Ouais, c'est une réalité. C'est une réalité. J'avais pas les codes. Le milieu de la haute montagne, c'est quand même un milieu de bourgeois. Faut quand même avoir des thunes pour y arriver. C'est un milieu de blanc aussi, pour aller vite. La preuve, c'est que j'ai été le premier métèque à l'avoir fait. Enfin, pas le métèque, comme on le dit en France, quoi. Il y a ça aussi. Et ça me rappelle ce qui s'est passé avec les femmes en 1967. T'as une femme qui est partie courir le marathon de Boston. Oui, c'était la première femme et fallait voir comment elle a été accueillie. Mm. On lui a lancé des pierres pour pas qu'elle fasse. Donc moi, ce que j'aime, moi, dans cette ascension de l'Everest, c'est d'aller là où les gens ne m'attendent pas. On me voit en tant que footballeur.
Rappeur,
au mieux.
Mais pas alpiniste.
Au pire, en tant que délinquant ou en tant que terroriste. Voilà. Donc c'était aussi faire ce que les femmes, elles ont fait il y a quelques années, d'aller là où on veut. On a le droit d'aller là où on veut. Et on a le droit de faire des photos de paquebots si on a envie de les faire.
Que vous inspire cette aventure pour de vrai, Francesca Pigueras? La sienne, oui. Vu que vous partez plutôt, voilà, ces expéditions maritimes, la symbolique aussi de l'Everest, de cette montagne, de ce toit du monde. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des photos là-bas d'ailleurs.
Non. Moi, je suis toujours en mer.
En mer.
Donc, à part là où je suis montagne, mais dans le marbre, ce qui est tout à fait différent. Ben, je suis très admirative. Je trouve ça très beau. Je trouve ça incroyable. Je trouve que c'est un challenge. Je trouve qu'il faut y aller. Voilà. C'est maintenant. Est-ce qu'il faut vraiment tout inventer et simplement dire, ben moi, je suis pas ça, mais je vous en, voilà, et je le fais quand même. Et quoi qu'il arrive, je monte, et quoi qu'il arrive, voilà. Est-ce qu'il faut absolument biaiser pour y arriver, ou est-ce qu'à un moment, on peut pas s'imposer et dire, voilà, moi, je suis qui je suis, et je le fais. Et c'est tout. Et voilà. C'est toute la question qu'éventuellement je peux me poser.
Ouais. Mais en fait, ce qui est en fait drôle, c'est vrai que quand j'ai fait l'Everest, j'ai cru que ça allait m'apaiser, quoi.
Mmh. Ah, vous avez l'air toujours aussi bien dynamique.
Ouais,
hein.
En fait,
enfin, les colères sont peut-être apaisées.
Ouais, elles sont apaisées, mais en fait, je me rends compte que, après, ça va faire bisounours, hein, je me rends compte que le vrai Everest, c'est d'être heureux dans sa vie tous les jours. Et peut-être que, quand j'ai fait l'Everest, ça a fini de boucler une boucle. Et donc là, maintenant, par contre, je prends plus le temps d'aller voir ma mère et prendre un petit café avec elle. Mmh. Et tu vois, le film sur ma mère, j'aurais pas pensé à faire ce film il y a 10 ans, ouais, 15 ans.
Il a fallu aller. Parce que
il faut un apaisement.
L'Everest, ça m'a permis de me dire, je suis capable de tout faire.
Alors, il y a l'histoire que vous symbolisez quelque part, hein, aussi. Il y a la notion de se projeter, s'inventer ses Everest, se projeter demain. Francesca Pigueras, vous, ces photos sur ce qui représente le passé, même si c'est un passé qui se transforme dans les eaux. Qu'est-ce que ça dit aussi de cette société en transformation, qui à la fois a peur de demain, peur du futur, peur de se lancer des nouveaux défis?
Moi, je ne conçois pas les choses comme ça.
Voilà,
je ne conçois pas du tout les choses comme ça. C'est-à-dire que pour moi, l'homme est un paradoxe. Il a le mieux et le pire, et il est comme ça. Tout le monde, même à cette table, c'est comme ça. L'homme est à quelque chose de...
Surtout lui.
Non,
oui,
tous,
mais l'homme avec un petit
tous,
ou l'homme avec un grand âge.
Voilà. Donc, il est capable du mieux, il est capable du pire, il est capable d'inventions absolument incroyables, et il est capable de la pire des choses. Donc, je regarde ça quelquefois avec tristesse, je regarde ça quelquefois avec rage, je regarde ça quelquefois en me disant, mais
ça,
où
c'est
on
quoi
va?
Ça, c'est quoi?
Ça veut dire la pollution, ça veut dire tout d'un coup, je suis au Pérou, je suis en train de photographier les vagues avec les plateformes derrière. et je vois une plage kilométrique avec des loups de mer morts, plein de pétrole, et il y en a une centaine. Je dis, mais ils sont fous, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? L'homme, nous, on est dingue. Et que donc, c'est là-dessus que je travaille. Et il se trouve que c'est ça qui m'intéresse.
Alors, il y a ça, c'est ça. Il y a ces paysages finalement un peu post-apocalyptiques, industriels, qu'on retrouve dans vos photos d'épaves. Et en même temps, donc la nature n'est pas là pour digérer toute la pollution de ce qu'on laisse.
Elle ne peut pas.
Et en même temps, ce qui est beau, c'est que si la nature retransforme le vivant avec ses sculptures, ses épaves qui se recréent autrement. Et là, il y a des lumières.
Il y a des lumières. Et là, moi, je le transforme avec la lumière, c'est-à-dire que je le rends beau. Ça, c'est quelque chose. Je le rends fort, je le rends un peu intense. Je lui donne une dramaturgie poétique, mais évidemment, ça suggère l'histoire. L'histoire, encore une fois, de cet homme qui est un peu destructeur.
En parlant d'histoire, ça vous arrive parfois, Francesca Piqueras, que vous regardez ces épaves-là, qui sont, en tout cas, vous nous rendez mystérieuses, d'imaginer ce qu'il y a eu dedans, le passé, un peu comme dans Titanic, vous voyez, imaginer les pensées,
Je parle au pêcheur qui est à côté, ou voilà, qui connaît l'histoire de tous les bateaux qui sont là, alors quelques-uns sont mis sur la plage par le marin qui a voulu récupérer l'assurance, c'est pas aussi, d'autres parce qu'il a bu, d'autres parce que, il y a plein d'histoires comme ça.
La petite histoire, la grande histoire.
Hein. Voilà. Et donc, chaque chose est comme ça, et voilà. Mais pour répondre à votre première question, c'est vraiment, je peux pas avoir un jugement politique, je peux pas. Je regarde juste et je montre et je le donne à sentir, je le donne à voir, je le donne à voilà.
Et voilà des histoires d'ascension d'Everest ou d'Everest passé ou d'Everest futur.
Je m'élance et je danse en silence, si langue heureusement. Pense bien plus longue et plus lente qu'une transe à mille temps. Souple, je suis souple. Quand je flanche, je me planque et je mange une mangue
Éric Le Camille, c'est dans tes rêves.
Dans tes rêves.
As-tu peur de voir les étoiles? Je peux te montrer comment les atteindre.
Laurence Garcia sur France Inter.
avec la photographe Francesca Piqueras et l'écrivain journaliste Nadir Dandoune. Messieurs, dames, il est bientôt minuit, c'est l'heure de notre dernière séquence imaginaire. Et comme à chaque fois, je vais vous demander, pour de vrai, de fermer les yeux. Allez hop, vous fermez les yeux, vous allez me répondre dans votre noir intérieur, le micro est devant votre bouche. Je commence par vous, Francesca Piqueras, les yeux fermés. Si vous pouviez croiser cette ancienne vous, cette gamine qui avait l'air un peu solitaire, là, dans cette maison de fer, avec ses parents artistes, ses amis prestigieux qui passaient, et cette gamine qui se mettait la pression de la peur de demain. Qu'est-ce que vous, avec du recul, quel conseil vous lui donnez à cette môme, hein?
Avec le recul, qu'est-ce que je lui dis? Ben, je lui dis qu'en fait, elle a trouvé la voie, et la voie, c'était le voyage, elle a plutôt bien fait, je trouve. Elle a bien fait. Ça a été, vraiment, ça a été pas simple, mais au fond, elle a trouvé quelque chose. Et avec force,
donc voilà, vous lui dites bravo, et finalement il fallait pas avoir aussi peur.
Ben non, la peur est quelque chose qui protège, c'est bien. Non, la peur est bien. Moi je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important.
Ah oui.
Vraiment.
Ah oui. Mais les peurs qui font avancer et d'autres qui font reculer.
Voilà, mais il faut la prendre avec.
La fameuse peur, faut toujours la prendre par la main. Hein.
Par la main.
Les yeux fermés, Nadir Dandoune, pareil, vous pouvez recroiser cet ado qui était en colère, qui l'est toujours encore un petit peu, mais vraiment, qui était dans la rage d'être un fils de pauvre, qui supportait pas que ses parents n'aient que des rêves de pauvres et pas des rêves de riches. Qu'est-ce que vous lui dites avec du recul à ce môme qui a réussi finalement, qui est devenu un bobo d'ailleurs, un journaliste, écrivain, qui fait des films, presque riche peut-être?
Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Je sais pas. Je lui dirais peut-être que j'aurais dû passer plus de temps avec mon papa, peut-être. Mmh. Voilà, que maintenant c'est un peu tard. Mais je lui dirais que peut-être que si j'avais pas eu. En fait, je pense que si j'avais pas eu autant de mal dans cette société, peut-être que j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. Donc j'ai très peu de regrets. Voilà. Donc avec ce que j'avais à cet âge-là, je pense que je m'en suis plutôt bien sorti, même si c'est un mot qui veut rien dire, parce que peut-être un berger du Larzac, il est peut-être plus heureux que nous.
Est-ce que quelqu'un a envie de poser? Fermez les yeux, j'ai du mal, hein, Francesca. C'est fait un petit peu pour. On vous met dans votre noir intérieur comme ça. Est-ce que quelqu'un a envie de poser une question à l'autre? L'un à l'une, le photographe.
Non, j'ai pas envie de poser une question, mais j'ai envie de lui dire que c'est un homme très doux. Voilà, que surtout ce qu'on sent, enfin ce que moi je ressens, c'est la douceur, l'extrême douceur de tout, et que la violence ou la rage, elle est très très loin. Il y a quelque chose de très doux, très rond, très très voilà. J'ai pas encore vu le film, je vais le voir, mais c'est ça que je sens. Donc c'est pas une question, c'est un sentiment.
Voilà. Vous êtes finalement un homme doux. C'est la première fois qu'on vous dit ça ou pas, Nadir Dandoune? Les yeux fermés, là, vous la voyez pas.
Non, il y a eu plein de nanas qui m'ont dit.
C'est pas une nana, c'est l'artiste là qui parle.
Ah oui, c'est vrai, c'est ce que tu m'avais dit tout à l'heure.
C'est une autre douceur, peut-être.
Ouais.
C'est peut-être.
Mais il y a aussi un truc que je pense. Hein, donc, je pense que quand on a été élevé par 7 filles et une maman, donc ça fait 8.
Oui.
Donc, en fait, je pense que c'est aussi normal un peu, peut-être que j'ai. Peut-être une sensibilité un peu plus féminine, donc un peu plus de douceur dans ce monde de brut.
Vive les frangines. Et puis en 7, ça en fait. Hein.
C'est vrai, exactement.
En tout cas, on est ravis de cette rencontre, votre première rencontre, de vous être racontée à travers les yeux de l'autre, à travers les histoires et les œuvres de chacun. Francesca Piqueras, l'expo, très très belle expo in fine, à la Galerie d'Europe à Paris jusqu'au 9 juin.
Absolument.
Et des figues en avril, toujours en salle, avec votre maman, entre autres, qui représente toutes les mamans. Voilà, exactement, la star, et elle le mérite. Merci beaucoup,
merci
à très bientôt. Joli rêve. Belle route.
Ciao.
Dimanche prochain, nouvelle rêve partie avec cette fois-ci la chanteuse onirique Barbara Carlotti et l'écrivain Didier Van Coverlert. Et bien sûr, oser rêver, l'imaginaire est notre plus grande liberté et personne ne peut nous l'enlever.